Nous sommes toujours reconnaissants au Seigneur pour chaque fois que nous pouvons nous réunir. Et nous ne sommes pas ici pour parler nous-mêmes, mais pour laisser Dieu nous parler à travers sa parole. Et si nous avons chanté les chœurs et pris en compte ce qui a été chanté, les chants et aussi les passages bibliques, alors Dieu nous a déjà parlé. Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir une prédication puissante. Dieu parle en toute simplicité. Il se révèle en toute simplicité. Seuls les hommes rendent les choses compliquées. Les prophètes étaient totalement simples, liés à la nature, liés à Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, et tout se passait bien. Ce n'est que lorsque les esprits intelligents sont également entrés dans le royaume de Dieu, entre guillemets, que la détresse a commencé et il en sera ainsi pour nous tous. La détresse est là où les hommes abordent l'œuvre de Dieu avec leur intellect. Il n'y a pas d'homme qui puisse expliquer Dieu. Il n'y a pas d'homme qui puisse expliquer aux autres le dessein de salut de Dieu comme s'il s'agissait d'un conseil secret. Mais nous pouvons faire une chose, nous pouvons le cœur incliné et l'esprit humble, par la grâce de Dieu, nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans sa parole. Alors que j'étais assis ici, j'ai pensé à la rapidité avec laquelle le premier mois de cette année est passé. Il y a quelques jours encore, j'étais en Syrie, en Jordanie, en Égypte, puis à Zurich. Aujourd'hui, j'ai parcouru environ 1600 kilomètres et je suis déjà de retour ici. Le temps passe si vite qu'on ne sait pas où il s'arrête. Et aucun jour ne revient, aucune occasion ne se représente à nouveau. Tout est fini pour toujours. Mais j'ai dû le dire ici mercredi ou bien c'était dimanche à Zurich. J'ai été bouleversé surtout au Caire lorsque j'ai rencontré le chauffeur de taxi qui m'avait conduit aux pyramides en octobre et qui m'a invité dans sa maison chez qui j'ai dîné le soir. Il s'est approché de moi, rayonnant de joie, et m'a dit, « Frère Franck, depuis que tu as prié pour moi à l'époque, j'ai arrêté de fumer et ceci et cela, et ma vie est devenue complètement différente. J'ai changé et je me suis réjoui avec lui de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu est le même. Et lorsqu'un homme vient à lui et l'expérimente personnellement, sa vie devient différente. Dieu reste le même, mais nous sommes changés lorsque nous venons vers le même Dieu. Et c'est bien ainsi, car nous devons être changés, non pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu. Les frères et sœurs de Syrie, de Jordanie et d'Égypte nous envoient de nombreuses salutations. Et vous savez que mercredi, nous avons reçu les deux frères de Jordanie ici. Il est parfois un peu affligeant pour nous de rencontrer des personnes qui pensent d'avoir été conduites par l'Esprit de Dieu pendant tant d'années et qui n'ont rien entendu de ce que Dieu a fait de nos jours ou au cours de cette génération. Et c'est pour moi la chose la plus incompréhensible sur terre, que des personnes pensent d'une part d'être conduites par l'Esprit de Dieu et d'autre part n'aient absolument rien entendu de ce que l'Esprit dit aux églises. Comment cela peut-il s'harmoniser et être ramené à un dénominateur commun, que celui qui le souhaite le comprenne? Je fais partie de ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Pour moi, cela va tout simplement de pair. La parole, l'esprit, l'Église, tout doit former une unité divine. L'Église est en effet appelée conformément à la parole. Elle est devenue une partie de la parole. Elle est née par l'Esprit. Née par l'Esprit. Elle a reçu la nouvelle vie de Dieu et elle a le lien avec lui. Le lien avec Dieu ne consiste pas à se rendre soi-même dans des sphères supérieures, mais à ce que Dieu lui-même puisse réellement se révéler à nous. J'ai lu tout à l'heure un verset de l'évangile de Luc au chapitre 24. C'est comme un message de Pâques, il est dit au verset 34. Luc 24, verset 34. Ceux-ci leur annoncèrent, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Verset 35, ils racontèrent alors eux aussi ce qui s'était passé en chemin et comment il avait été reconnu par eux à la fraction du pain. Verset 36, « Pendant qu'il parlait encore de cela, Jésus lui-même se tint au milieu d'eux en disant, « La paix soit avec vous. » Le merveilleux message que le Seigneur est ressuscité, qu'il se révèle aux siens, qu'il est devenu notre réconciliation, notre paix, notre vie, n'a pas été exprimé seulement en paroles, mais là où les gens se réjouissent, qu'ils soient ressuscités, qu'ils soient vivants. Et là où ils en parlent, c'est là qu'il vient à eux et qu'il se révèle à eux et leur parle. Et c'est ce que nous voulons aussi depuis mercredi, la prédication sur la montagne, le sermon sur la montagne me préoccupe. Nous l'avons en partie lu ici dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 et il est dit au verset 1, Matthieu 5, du verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, il s'assit et ouvrit la bouche. Je l'ai dit dimanche à Zurich. Nous ne sommes pas là pour faire des conférences sur Dieu. Nous sommes là pour présenter ce que Dieu a promis dans sa parole et ce qu'il a à dire à son peuple. N'importe qui peut faire une conférence, mais imaginez que le Seigneur Jésus se soit assis et qu'il ait ouvert la bouche. Que se passerait-il aujourd'hui s'il venait au milieu de nous? Tout le monde attendrait qu'il fasse une très belle apparition et qu'il prononce un discours au microphone. Il s'est assis et a ouvert la bouche. Aucune formalité. Il a simplement exprimé les plus grandes vérités en phrases courtes. Comme nous le savons, c'est le plus long sermon qu'il ait prononcé dans la parole de Dieu. Mais aucun homme ne peut accomplir par lui-même ce qu'il demande ici, dans ce serment. Mais celui qui compte parmi les premiers à être cité ici a une réelle chance de recevoir également tout le reste de Dieu. Et en premier lieu, il est écrit, Matthieu 5 au verset 3, « Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur sera donné. » Si nous pouvons nous compter parmi ces personnes de cœur qui sont spirituellement pauvres, nous n'apportons rien de nous. Ça veut dire, de nous-mêmes, nous n'apportons rien. Au contraire, nous venons vides pour être remplis. Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Des gens qui sont spirituellement riches, qui savent déjà tout, qui connaissent déjà tout, qui ont déjà tout su avant même de l'avoir entendu. Cela existe aussi. J'ai déjà rencontré des gens qui savaient déjà tant de choses avant même qu'elles ne soient annoncées, révélées et prêchées. Ils le savaient déjà à l'avance. Cela existe aussi. Je ne sais pas si vous les avez rencontrés déjà, mais de telles personnes existent. Dieu cherche des gens qui sont spirituellement pauvres, qui viennent à lui tels qu'ils sont, qui n'apportent rien, aucune connaissance spirituelle, rien de tout. Cela met qui s'assoit à ses pieds et écoute ce qu'il a à leur dire. Bénis les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ou leur sera donné. C'est tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, bien sûr, tout le reste suit. Si le royaume des cieux nous est accordé en tant que pauvres spirituels, alors tout le reste est naturellement inclus. Cela va ensuite plus loin, verset 4. Bénis ceux qui souffrent, car ils seront consolés. Vous savez qu'il faut toujours peser les Écritures, les Saintes Écritures, les unes par rapport aux autres. Il est écrit à un endroit, Paul l'a exprimé, Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur dans toutes vos voies, et je dis encore, réjouissez-vous. » Réjouissez-vous toujours. Et ensuite, il dit ici, bénis ceux qui souffrent, qui pleurent. Il a également écrit que nous pouvons ou devons pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Romains 12, verset 15. Au verset 4 de Matthieu 5, il dit ici, bénis ceux qui souffrent, car ils seront consolés. Seuls ceux qui sont spirituellement pauvres, hein, qui ont été placés dans le royaume de Dieu, peuvent porter de la souffrance. Ils ont été dépouillés de leur cœur de pierre et ont reçu un cœur selon le cœur de Dieu. Ils ont des sentiments les uns pour les autres. Ils ressentent, ils compatissent, ils peuvent porter la souffrance l'un de l'autre et se tenir les uns pour les autres. Ils doivent, ceux-là doivent être consolés et seront consolés. Matthieu 5, verset 5. Bénis ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Tout cela doit nous être donné par la grâce de Dieu. Savoir où la douceur est exigée par Dieu et où la sévérité devrait aussi parfois être présente. Vous savez qu'il est écrit de Moïse qu'il était l'homme le plus doux qui ait jamais existé sur la terre. Nombre 12, verset 3. Et lorsqu'il a vu qu'on fabriquait un veau d'or et que le peuple poussait des cris de joie, poussait des cris d'allégresse et dansait, sa douceur a bien sûr disparu. Il a même brisé les tables des commandements et ensuite il a réduit en cendres le veau d'or. Exode 32, verset 19. C'en était fini de toute douceur. Il en a été de même pour notre Seigneur. Quand il est entré dans le temple de Dieu et qu'il a vu tout ce qui s'y passait, tout le commerce et les affaires qui s'y faisaient et que les caisses étaient posées sur les tables pour tout se passait comme dans un magasin. Matthieu 21, 12. C'est là que tout s'est arrêté. C'est alors que la colère et le zèle de Dieu s'emparèrent de lui. Il justifie ensuite son acte en disant, il est écrit, « Le zèle du Seigneur m'a consumé. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Matthieu 21, 13. Et déjà les tables volaient, l'argent était dispersé et le fouet était sur le dos de ceux qui étaient impliqués dans les affaires. Et on ne voyait plus beaucoup de sa douceur. Il était nécessaire de savoir où la douceur était à sa place et où il fallait rester sévère. Que Dieu me l'accorde par grâce ainsi qu'à nous tous. Il peut arriver que par modestie ou quoi que ce soit d'autre, nous ne prenions pas notre place comme nous le devrions simplement parce que nous pensons devoir être doux. Il est également écrit ici, Matthieu 5, verset 6, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous savons que pour les derniers jours, le Seigneur a prédit que l'injustice abonderait et que par conséquent, l'amour se refroidirait chez beaucoup. Matthieu 24, 12. Et il est dit ici, bénis ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a des gens qui aspirent à la justice de Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas de justice sur terre. Nous n'avons pas besoin de la chercher car nous ne la trouverons pas. En effet, il s'agit ici du royaume de Dieu et non de choses terrestres. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Un homme qui a faim, cela peut être douloureux. Et si la soif s'y ajoute, il est bientôt nécessaire d'avoir à manger et à boire. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu 5, verset 6, car ils seront rassasiés. Qui ressent cela là dans son cœur? Les gens qui ont été placés dans le royaume de Dieu. Tous les autres passeront à côté et la parole n'aura rien à leur dire et du moins la parole ne trouvera pas d'accomplissement dans leur vie. Les personnes qui ont été placées dans le royaume de Dieu ont part à ce que Dieu a promis dans sa parole. Et nous pouvons être de ceux-là. Nous confessons que nous sommes pauvres spirituellement, pauvres d'esprit, et nous n'avons pas honte d'être pauvres en esprit. Nous ne pouvons certainement pas nous joindre à beaucoup d'entre eux, et ce n'est pas nécessaire. Ce qui nous importe, c'est que Dieu nous parle. Il ne s'agit pas de savoir si nous pouvons rivaliser avec les autres en termes de savoir ou de connaissance, mais pour nous, il importe de savoir si Dieu peut nous parler. Bénissons, et nous sommes dans ce cas, les pauvres en esprit. Et je peux vous le dire en toute confiance, les gens qui nous regardent, qui regardent nos services divins, qui regardent la manière dont nous annonçons la parole de Dieu et qui n'ont pas vraiment fait l'expérience avec Dieu, secouent la tête et s'en vont. Et qu'ils le pensent ou le disent à haute ou à basse voix, ils n'ont plus qu'une seule opinion. Oh, ces pauvres personnes, ces pauvres gens, c'est comme ça. Ne pensez pas que nous soyons hautement classés dans ce monde. Ceux qui attendent cela peuvent devenir aussi vieux que Matusalem et ne le verront pas. Tous les autres, ceux qui ne sont pas nés dans le royaume de Dieu, nous qualifierons de pauvres, spirituellement de pauvres en esprit. Oui, j'ai déjà entendu cela. Vous êtes spirituellement pauvres, vous êtes, et c'est pourtant vrai. Il est écrit, n'est-ce pas, bénis les pauvres en esprit. C'est vrai ce qu'ils disent, car le royaume des cieux leur appartient. L'heure est accordée, loué et exalté soit notre Dieu. Bénis ceux qui souffrent, car ils seront consolés, verset 4. Verset 5, bénis les doux, car ils hériteront de la terre. Ils posséderont la terre. Verset 6, bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7, bénis ceux qui exercent la miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Cela aussi fait partie de notre existence de croyants. Bénis ceux qui exercent la miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Les impitoyables, ceux qui n'exercent pas la miséricorde, qui ne peuvent pas faire miséricorde, seront un jour traités sans miséricorde, mais les miséricordieux obtiendront miséricorde. Verset 8, bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est sans doute David qui, dans son psaume, a envoyé cette prière à Dieu. Psaume 51, verset 12, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Non pas que tu le crées toi-même, mais il dit, crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Ce que toi et moi qualifions de pur et de raffiné n'a pas besoin d'être pur et raffiné pour Dieu, loin de là. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur et restaure-moi, rétablis-moi. C'est sans doute ainsi qu'il continue à prier là dans ce psaume. Verset 8. Bénis ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je veux dire que cela se réfère au fait que nous serons un jour dans la gloire. Mais pas seulement cela. Mais déjà ici, sur terre, nous pouvons voir Dieu dans sa gloire, dans sa parole. Nous pouvons prendre connaissance de ce qu'il fait et y prendre part. Il y a une parole dans le prophète Ésaïe où il est écrit au sujet du lieu où reposent ses pieds. Ésaïe, chapitre 60, et plus précisément du verset 13. Ésaïe 60, du verset 13. Il est dit ici, verset 13, « Les arbres magnifiques du Liban te seront amenés, cyprès, platane et cyprès de Virginie, pour orner le lieu de mon sanctuaire, car je veux honorer le lieu où reposent mes pieds. » Mes pieds. Je veux honorer le lieu où reposent mes pieds. Pour moi, c'est une parole très importante. Dieu n'honore pas le lieu où on le confesse de la bouche et où on est loin de lui dans le cœur, mais là où il peut lui-même marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Là où sa voix est entendue, là où il peut rendre visite, où il peut être présent dans l'assemblée des saints. Là où il peut marcher, là où se trouve le lieu où les hommes se rassemblent dans le respect de lui et de ses paroles, prêts à écouter sa parole et à s'humilier sous la main puissante de Dieu. Là où il marche, il parle aussi. Là, il témoigne de lui-même. Là, il se révèle. Là, il sauve. Là, il guérit. Là, il baptise même d'esprit et de feu. Vous savez que Jean a rendu ce merveilleux témoignage. C'est ici dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Cette parole aussi me va toujours droit au cœur. Ce qui est écrit ici n'est mentionné qu'une seule fois dans les Saintes Écritures et il a été dit à Jean à l'avance avant qu'il n'accomplisse son mandat, ce qui allait arriver. Jean, chapitre 1, verset 32. De plus, Jean rendit témoignage en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Verset 33. « Et je ne le connaissais pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé, baptisé d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Ce sont précisément ces paroles ici. « Celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit. » Nous pouvons parfois nous étonner, car il n'était pas écrit que Jean devait baptiser. Il était seulement écrit qu'il était la voix de celui qui crie dans le désert, le messager qui prépare le chemin du Seigneur et aplanit la route pour notre Dieu. Mais lorsque le temps s'est accompli et qu'il était sur le point d'accomplir le mandat, Dieu lui a dit très clairement ce qu'il avait à faire. Même qu'il a pu lui dire que l'Esprit viendrait sur celui qui baptise d'Esprit et de feu. Vous savez, il y a des gens qui disent simplement « Ah, c'était une chose convenue ensemble. » Non, comme c'est beau qu'il soit écrit ici, moi-même je ne le connaissais pas. C'est pourtant ton histoire et la mienne. Nous tous, nous ne connaissions pas notre Seigneur, mais nous l'avons reconnu. Et c'est écrit dans Ésaïe 60, verset 13, « Les villes où mes pieds se tiennent, où se reposent, je les honorerai. J'honorerai le lieu où reposent mes pieds. » Ne prenons pas cela à la légère. Seulement là où le Seigneur peut être présent, seulement là où nous croyons de tout cœur qu'il est présent et sommes prêts de tout cœur à écouter ce qu'il a à nous dire. Combien ont demandé à Dieu de leur parler? Combien l'ont demandé? Combien je l'ai souvent, comme je l'ai souvent dit, ô Dieu, envoie ta parole fraîchement descendue du trône et révèle-toi à nous. Lorsque Dieu le Seigneur a envoyé sa parole fraîchement descendue du trône et qu'il s'est révélé, c'était très différent de ce que tous ces religieux priants avaient imaginé. Combien de personnes ont demandé, non pas quelques minutes, mais des heures, des jours, des semaines, des mois et des années, et ce, en grande partie, avec un cœur sincère. Et lorsque les temps furent accomplis et que Dieu envoya son serviteur et prophète pour que les Écritures soient accomplies, pour nous ramener au commencement, pour tout restaurer, rétablir et remettre en place à l'état primitif, tous ces gens, de deux choses l'une, en ont fait une dans chaque cas. Soit ils n'ont pas du tout compris que l'heure de Dieu avait sonné et que la parole fraîchement descendue du trône avait été révélée. Soit ils ont continué à prier comme si rien n'était arrivé. Soit ils n'ont pas entendu ce qu'ils avaient déjà entendu, soit ils n'ont même pas entendu ce que Dieu avait déjà fait. C'est la pensée qui m'a touché dès le commencement. Comment des hommes peuvent-ils prétendre être conduits par l'Esprit de Dieu alors qu'ils ont fait, on ne peut le nier, de nombreuses expériences avec Dieu. Mais si ces expériences que les hommes font avec Dieu ne les conduisent pas à lui, à l'obéissance, à sa parole et à sa volonté, afin qu'ils soient mis maintenant en accord avec sa parole, alors ils suivent malgré tout leur propre voie. À quoi bon les plus grandes expériences et les plus belles choses que nous ayons vécues si nous n'atteignons pas le but et que personne pense qu'il atteindra le but par ses propres moyens avec des bénédictions. Le but de Dieu ne peut être atteint que sur la voie de Dieu et pas autrement. Revenons à Matthieu 5. Le verset 9, bénis ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez bien qu'à notre époque, la paix est justement devenue un slogan Mais nous savons tout aussi bien les personnes qui n'ont pas la paix dans leur cœur peuvent même transformer une manifestation de paix en catastrophe et l'appeler encore manifestation de paix. De même, il y a des gens qui sont croyants ou qui voudraient l'être, mais qui ne parviennent pas à faire la paix, à procurer la paix. Et cela aussi fait partie intégrante de notre existence de croyant. Tout le monde peut semer la discorde, mais le peuple de Dieu est composé d'artisans de paix, est composé de personnes qui procurent la paix. Il y a un autre passage biblique, probablement dans Jacques, au chapitre 3, dans le dernier verset. Il est dit ici, Jacques 3, verset 18, « Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui procurent la paix. » Il y a une semence qui est semée, il y a un ensemencement. Et le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui procurent la paix, qui reçoit la parole de Dieu, par ceux qui se considèrent comme riches spirituellement, comme nous l'avons déjà dit, par ceux qui se considèrent comme riches en esprit. Ils ont déjà tout su avant même qu'elle ne soit prêchée, avant même qu'elle ne soit révélée. Ils n'ont pas la possibilité de donner raison à Dieu, ils n'ont pas la possibilité de s'humilier, de dire « Seigneur, que serais-je sans toi ? Où serais-je sans toi ? » Posons-nous cette question en toute confiance. Où serais-je ? Où serais-tu ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ou que tu as pu faire ? Tout n'était-il pas grâce ? N'est-ce pas le Seigneur qui nous a appelés ? N'est-ce pas lui qui nous a retirés du monde et qui nous a rachetés ? N'est-ce pas à lui que nous devons tout ? N'est-ce pas lui qui est notre paix ? En lui, le mur de séparation a été ôté. Éphésiens 2, 14. En lui est la paix pour ceux qui sont proches et pour ceux qui sont loin, pour les deux. Éphésiens 2, 17. Cela se réfère aux Juifs et aux païens, et aux nations. Pour les deux, il y a la paix en lui. Et c'est ainsi qu'un auteur de chant chante « Si la paix avec Dieu pénètre mon âme. » Pas une apparence de paix. Vous verrez, de même que sur le plan terrestre, le malheur s'abattra sur tous les hommes après qu'ils auront dit « Maintenant sera la paix. » Maintenant, c'est la paix plutôt. Maintenant, il n'y a pas de danger. 1 Thessaloniciens 5, 3. De même, le malheur s'abattra sur tous ceux qui n'ont pas la vraie paix avec Dieu et qui ne peuvent donc pas être des artisans de paix, ne peuvent pas, en conséquence, procurer la paix. Ce n'est que là où la parole et l'expérience s'accordent que nous avons affaire à la réalité divine. Et c'est à cela qu'il faut arriver maintenant, que la parole de Dieu accomplit en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Et nous croyons en l'autorité de la parole de Dieu, car Dieu est derrière elle. C'est par la parole que toutes choses ont apparu, ont existé, et c'est par la parole que l'Église est maintenant appelée à sortir. C'est par la parole et même dans le bain d'eau de la parole qu'elle est lavée. C'est dans la parole que se trouvent les promesses dont il s'agit maintenant. Et c'est ainsi que l'Église, par l'Esprit, ne fait qu'un avec la parole afin que la parole puisse devenir réalité à travers l'Église. Comme la parole est devenue réalité en Christ, il doit en être ainsi et il en sera ainsi avec l'Église. S'il est écrit ici des autres choses, auparavant dans Jacques 3, l'apôtre ne fait que tirer la comparaison et dit du verset 16, Jacques 3, verset 16, « Car là où il y a une dépendance à la jalousie et aux querelles, il n'y a pas la paix, mais toutes sortes de mauvaises actions. » Verset 17, « La sagesse, au contraire, qui vient d'en haut, est d'abord pure, puis pacifique, aimable, indulgente, riche en miséricorde et en bon fruit, exempte de doute et sans hypocrisie. » Verset 18, « Mais le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent la paix. » L'un va avec l'autre. Et nous voyons ici la différence. Là où il y a encore une dépendance à la jalousie, une dépendance aux querelles et diverses dépendances, nous vivons en effet dans une époque de dépendance. Autrefois, on n'entendait même pas ce mot, mais aujourd'hui, on entend dire que les gens sont dépendants. Et c'est effectivement le cas. Mais ici, il s'agit de naître dans le royaume de Dieu, d'y être placé comme fils et fille de Dieu. Et que le Seigneur puisse nous créer et donner, nous créer et nous donner un cœur nouveau, un cœur dans lequel le fruit de l'Esprit peut être, un cœur dans lequel la nature de Jésus peut effectivement être. La semence, comme il est dit ici, ou le fruit après, est semé dans la justice et dans la paix, ou alors le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui procurent la paix. Tous les autres passeront à côté de l'ensemencement. Oui, ils entendront et recevront certaines choses, mais ils ne recevront pas la totalité de la semence. Et c'est justement ce qui compte. Dieu ne cherche pas des gens qui s'assoient à sa table et qui pensent ensuite, « Oh, non, je n'aime pas ça » ou « Je ne veux pas ça ». Non, Dieu cherche des hommes qui s'humilient sous sa main puissante, qui s'assoient à sa table, qu'il couvre abondamment pour nous face à nos ennemis, car il marche lui-même au milieu de son peuple. Et nous croyons qu'il est présent, qu'il nous parle et qu'il mérite que nous lui témoignions ainsi qu'à sa parole, respect et haute estime. Avant d'écrire l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, Jean a mis sur papier au chapitre 1 la phrase ou le verset suivant. Apocalypse, chapitre 1, verset 4. Moi, Jean, j'envoie mes salutations aux sept églises de la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Que la grâce soit avec vous et la paix de celui. À quoi te sert ta propre paix? Nous avons besoin de la paix de Dieu. À quoi te sert ta propre justice? Nous avons besoin de la justice de Dieu. À quoi te sert ta propre sainteté? Nous avons besoin de la sainteté de Dieu. Personne ne pourra entrer dans le royaume des cieux avec ce qu'il apporte lui-même. Ce n'est qu'avec ce que Dieu nous donne que nous pourrons y entrer. Il est dit ici, je le lis encore une fois, que la grâce et la paix vous soient données de celui qui est, qui était et qui vient. Nous remarquons quand même à quelle vitesse la paix s'arrête parfois, cesse parfois chez les gens, très très vite. Mais ce qui vient de Dieu ne cesse jamais. Cela n'a jamais commencé. Elle n'a jamais commencé. Il est notre paix. Il est notre réconciliation. Il est notre sanctification, notre justification. Nous avons tout en tout en lui. Nous n'apportons rien de nous-mêmes et nous disons, Seigneur, nous voici. Reçois-nous, accueille-nous, accepte-nous. Nous venons ainsi devant ta face. Fais de nous ce qu'il te plaira. Prenons donc tout cela à cœur et vous savez de quoi il s'agit maintenant. Pas seulement d'entendre. Nous avons entendu pendant toutes ces années et avec nous des centaines et des milliers. Maintenant, Dieu veut produire du fruit. Et nous avons lu clairement dans l'épître de Jacques que le fruit de la justice est semé pour ceux qui produisent la paix. Si Dieu peut faire de nous des artisans de paix, des gens qui produisent la paix, alors nous aurons plus de soucis. Alors de la semence divine, un fruit de justice, un fruit de justice aura été semé pour toi et pour moi. Et il en sortira. Mais la condition est que Dieu ait pu faire de nous des gens qui produisent la paix. Il y a encore un passage de la Bible que nous connaissons certainement tous très bien, selon lequel Dieu a ôté le mur de séparation et qu'il nous a tous rassemblés. Où est-ce ce verset dans les Colossiens ou dans les Philippiens? Nous ne connaissons certainement tous qu'un seul passage dans les Colossiens 2. Voyons si c'est celui-là, Colossiens 2, à partir du verset 13. Vous aussi qui étiez morts à cause de vos transgressions et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a aussi rendu à la vie avec lui en nous pardonnant par grâce toutes nos transgressions. Verset 14. En ce qu'il a effacé l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient, qui était un obstacle pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Mais il doit y avoir une autre parole. Oui, ce n'est pas cette parole que je cherche. Merci de tout cœur. Bien sûr, celle-là, parole que je cherche. Oui, c'est Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 14. Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix. Lui qui a fait des deux parties une seule et même chose et qui a fait disparaître le mur de séparation, l'inimitié, après qu'il ait, par l'offrande de son corps, verset 15, supprimé la loi avec ses commandements écrits dans des statuts, pour transformer ainsi les deux en sa personne, en un seul homme nouveau qui procure la paix. Nous avons maintenant lu ce terme dans trois passages bibliques différents. Procure la paix, artisan de paix. Qui procure la paix? Bénis ceux qui procurent la paix. Ici, nous avons lu que nous avons été transformés à être des gens qui procurent la paix. Et ensuite, dans Jacques, que Les semences de justice sont semées pour ceux qui procurent la paix et qui cela peut être, ceux avec qui Dieu a fait la paix, ceux qui ont trouvé la paix avec Dieu. Nous ne pouvons être que ce que Dieu a fait de nous. Un monde illusoire et pieux et religieux, un monde de rêve, peut bien être embelli avec une imagination qui ne connaît pas de limites. Et lorsque l'on est confronté à la réalité et que l'on y fait face, tout rêve, toute mousse et toute fantaisie disparaissent. C'est alors que nous voyons au fond ce que nous sommes vraiment. Et il ne m'est pas difficile ni à nous de voir ce que nous sommes vraiment. En fait, de voir que nous sommes vraiment rien du tout. Mais nous pouvons tout aussi bien dire, par grâce, je suis ce que je suis. Et cela ne vient pas de moi-même afin qu'aucune chair ne se glorifie devant Dieu. Mais ce que nous le sommes par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, 10. Puisse donc la rédemption devenir à nous une réalité divine. Le pardon total, la réconciliation, le salut et la grâce, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce ne soit plus ton effort et le mien, mais l'œuvre de rédemption de notre Dieu par le sang versé, par la parole et par l'esprit dans ta vie et dans la mienne. Et alors, le fruit de la justice jaillira, car il sera semé dans la paix pour ceux qui procurent la paix. C'est ce que nous avons lu. Et celui qui veut inclure les gens qui sèment la discorde fait violence à la Bible. Est-ce vrai ou non? Cela ne doit pas être fait. Tout homme doit prendre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite sans y ajouter la moindre chose. Mais le fruit de la justice est semé en paix, dans la paix, pour ceux qui procurent la paix, et pour personne d'autre, Si les hommes sèment la discorde, la semence ne germera pas chez eux. Soit elle est étouffée, il se passe quelque chose, quelle que soit la quantité de graines semées. Le fruit de la justice divine, le fruit de l'esprit, le fruit que Dieu cherchera en toi et en moi, qu'il cherche dès aujourd'hui, ne sera là et ne sera semé en paix que pour ceux qui procurent la paix. Et pour cela, que Dieu nous transforme tous par grâce, toi et moi. Si en ces moments, nous prenons à cœur et reconnaissons, que nous ne le sommes pas encore, alors ce n'est pas grave. Au contraire, c'est une bonne chose. Alors nous sommes alors regardés dans le miroir de la parole de Dieu. Et nous nous sommes vus, nous-mêmes et personne d'autre. Nous nous sommes reconnus et nous venons au Seigneur tel que nous sommes et nous disons, Dieu fidèle, beaucoup de semences ont été semées. Peu ont germé. On ne voit guère de fruits. Seigneur, aide-moi, aie pitié de moi. Fais de moi d'abord quelqu'un qui procure la paix. Un artisan de paix, un enfant de Dieu véritablement racheté, délivré. Un homme qui est né de nouveau par la parole, l'esprit et le sang, qui est parvenu à une vie nouvelle avec Dieu. Un homme qui a trouvé la paix avec Dieu. Il est alors quelqu'un qui procure la paix. Et c'est pour cet artisan de paix que l'on sème maintenant les dernières graines et malheurs à celui qui se laisse abuser, utilisé par l'ennemi pour semer la zizanie. Ne prenez pas cela à la légère, la parole de Dieu est sérieuse. Même si nous n'élevons pas la voix ici, ce n'est même pas nécessaire. La parole de Dieu est si sainte. Elle pénètre et sépare l'âme, l'esprit, la moelle et les os. Elle discerne les pensées des cœurs et révèle tout. Même maintenant, en cette heure, nous attendons parfois une révélation particulière. Imaginez un instant que si l'esprit de la révélation était sur nous en ce moment, nous recevrions par le biais de ces passages des Écritures que nous avons lu une révélation divine telle qu'elle n'a jamais été donnée à quiconque a peut-être vu quoi que ce soit. Toute révélation existant devant Dieu qui entraîne un résultat divin doit provenir de cette parole et être fondée sur cette parole. Et c'est ce que Dieu veut nous dire ce soir. Mon peuple, je veux vous transformer. Menez à bien en vous mon œuvre de rédemption. Je vous ai montré le chemin pour y parvenir, car en moi, les fautes sont payées. L'acte de condamnation est déchiré. Le mur de séparation étant est ôté. Le Seigneur nous crie aujourd'hui, je suis votre paix. Qu'il fasse de toi, de moi et de nous tous des gens qui procurent la paix. Ainsi nous hériterons alors du royaume de Dieu. Nous pouvons alors être sûrs que la semence de la parole produira un fruit de justice dans la paix de Dieu pour tous ceux qui sont en paix avec Dieu, qui ont la paix de Dieu et qui sont en paix avec lui et qui font la paix et procurent la paix où qu'ils aillent. Puisse Dieu nous mettre cela à cœur et je suis convaincu qu'il le fera par grâce. Que son nom soit loué. Amen. Levons-nous et prions. Père céleste, je suis venu ici ce soir sans y être préparé. Et je te remercie maintenant pour ta sainte et précieuse parole. Seigneur, que puis-je te dire? Tu es un Dieu fidèle, Sauveur bien-aimé. Tu t'es assis. Tu n'as pas fait de conférence, ni de discours élevés. Tu as enseigné le peuple. Tu as réuni tes disciples autour de toi, comme tu l'as fait avec nous aujourd'hui. Seigneur, que tes pieds reposent en ce lieu, que ce lieu te soit consacré, ainsi que le peuple qui se rassemble en ce lieu pour écouter ta parole, les semailles pour ce temps dans la paix, afin qu'un fruit de justice jaillisse chez tous ceux qui procurent la paix, qui font la paix, qui font la paix. Fidèle Seigneur, écris-nous ces passages bibliques sur les tables de nos cœurs par ton esprit et que nous nous souvenions toujours que ta parole est la vérité. Seigneur, fais-moi miséricorde, Fais-nous miséricorde à tous. Marche au milieu de nous. Parle par ta parole et par ton esprit. Seigneur fidèle, révèle pour moi et pour nous tous ce que nous avons médité ce soir. Ô Dieu, que ta parole ne revienne pas à vide, mais qu'elle accomplisse ce pourquoi tu l'as envoyée. Dieu fidèle, adoration et gloire à toi, d'éternité en éternité. Amen.